Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors que l'on vient d'apprendre la mort de Maître Capello, Franck Ferrand consacre aujourd'hui son émission sur Europe 1 à la langue française. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. J'aimerais naturellement dédier cette heure d'histoire de la langue à Jacques Capellovici, le savant arbitre des Jeux de 20h, qui fut aussi un excellent professeur, paraît-il, c'est ce que pensaient tous ses étudiants, et un infatigable cruciverbiste.
Alors pourquoi vous avez intitulé cette émission « Quand l'Europe ne parlait pas français » ?
Ah, c'est une petite provocation. C'est par référence à un livre qui vient de sortir, « Le français, quelle histoire ?» et qui, notamment, tord le cou à cette idée reçue selon laquelle autrefois toute l'Europe aurait parlé français. Bien, vous verrez que ça n'a jamais été aussi simple. Du reste, nous allons tenter dans cette émission de redresser un certain nombre d'idées fausses à propos de notre langue.
Alors c'est le moment jamais de poser vos questions. Chers auditeurs, soit par mail à l'adresse d'Europe 1, www.europe1.fr, soit via la page Facebook de l'émission qui s'appelle « Au cœur de l'histoire ».
Alors avant de recevoir l'auteur de ce fameux livre, ma première invitée sera une vieille dame, encore verte, en dépit de ses 4 siècles ou presque. La vieille dame du Quai Conti, c'est ainsi, vous le savez, qu'on surnomme l'Académie française.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
On les appelle les immortels, ce qui me fait penser toujours à la vacherie d'Edmond Rostand, c'est dans Cyrano de Bergerac. Au premier acte, il y a un jeune homme qui demande « L'Académie est là ?» et son bourgeois de père lui répond « Mais... j'en vois plus d'un membre. Voici Boudu, Boissat et Cureau de la Chambre, Porchère, Colombie, Bouzet, Bourdon, Arbeau, tous ces noms dont pas un ne mourra. Que c'est beau !» Et encore, à propos de cette appellation grandiloquente des immortels, la pique de Jules Renard à un ami tout juste élu, « Eh bien, tu fais maintenant partie du commun des immortels. » Pour être juste, il faut préciser tout de suite que parmi ceux qui, depuis près de 4 siècles, ont occupé l'un des 40 fauteuils de l'Académie, bon nombre aura mérité le fameux surnom. Tout de même, au XVIIe, Corneille, Colbert, Bossuet, Racine, La Fontaine, entre autres, le cardinal de Fleury, Montesquieu, Marivaux, Voltaire, Bougainville, D'Alembert, La Condamine au XVIIIe, Cambacérès, Chateaubriand, Lamartine, Thiers, Guizot, Tocqueville, Mérimée, Victor Hugo, Ernest Renan, Hippolyte Taine, et Pasteur, et Lesseps, et Loti au XIXe, et je vous fais grâce évidemment du XXe siècle, quel palmarès. Au fond, je ne crois pas qu'il existe d'institution plus française que cette académie si encensée le plus souvent et d'autres fois tellement critiquée. D'un côté, l'Auguste Compagnie aura eu de brillants défenseurs. Généralement, d'ailleurs, ce sont eux-mêmes des académiciens. Ça, c'est plus facile. Je pense à Paul Valéry, par exemple, qui proposait très sérieusement de donner beaucoup plus d'importance à l'Académie française et d'en faire, je le cite, « un îlot où se conserverait le souci du meilleur de la culture humaine ». Rien que ça. Ce centre d'observation, ajoutait Paul Valéry, ce centre de réflexion composée et de prévision exercerait une action indéfinissable mais constante, une sorte de conscience éminente qui veillerait sur la cité. Voilà un grand et beau projet politico-académique. Et par ailleurs, vous le savez, eh bien, il a toujours été de bon ton de brocarder la coupole. On dit la coupole parce que c'est sous cette sublime coupole du Collège des Quatre Nations, fondée par Mazarin, que se réunissent les académiciens. Pas seulement ceux d'ailleurs de l'Académie française, mais ceux des 5 académies qui aujourd'hui composent l'Institut de France. C'est le lot donc de tous les clubs extrêmement fermés d'être critiqués. Ainsi va le monde, l'envie, la frustration génèrent forcément la moquerie. Alexis Piron disait par exemple « Ah, c'est 40, ils ont de l'esprit comme 4 ». Du reste, je précise que Piron n'a pas été élu, ou que, pour être encore plus exact, il avait été élu, mais que le roi Louis XV, protecteur, c'est que le chef de l'État français est toujours le protecteur de l'Académie et qu'il doit agréer les élections. Alors depuis quelque temps maintenant, on a eu une parenthèse un peu compliquée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais d'une façon générale, le chef de l'État approuve toutes les élections. Ça ne viendrait plus à l'idée aujourd'hui du président de la République de dire non, je ne veux pas un tel à l'Académie. Mais sous l'ancienne monarchie, évidemment, il n'en allait pas de même, et Louis XV avait écarté Piron parce qu'il avait, dans sa jeunesse, publié des écrits licencieux. Voilà comment Piron s'en sortira en rédigeant lui-même son épitaphe. Si J.P. Piron qui ne fut rien, pas même académicien. Fontenelle jouait lui aussi sur le nombre de 40, mais en académicien, il se montrait forcément un peu plus amène que Piron. « Sommes-nous 39, on est à nos genoux », disait-il. « Et sommes-nous 40, on se moque de nous. » 40 appelés et peu de lus, disait pour sa part le romancier de la rue de Rivoli, Pierre Véron, ce qui du reste n'est pas une certitude, car je crois qu'un certain nombre de nos best-sellers sont précisément en ce moment à l'Académie. Il faut dire que le club est non seulement fermé, mais électif. Ce mode de désignation ajoute forcément au lustre de la compagnie. Et puis, il y a tout ce décorum, vous savez, Julia, le somptueux hôtel du Quai Conti, les séances solennelles avec les tambours de la garde républicaine, le grand habit, ce fameux habit vert consacré par le vaudeville de Flers et Caillavet. Beaucoup de prestige, en somme, beaucoup d'honneur propre à gonfler les égos et les vanités. Parmi les idées fausses qui circulent à propos de l'Académie française, la première concerne tout simplement sa fondation en 1634-1635. Habituellement, quand on en parle comme ça, on laisse toujours entendre qu'il s'agirait d'une invention du cardinal de Richelieu. Et bien en vérité, comme très souvent, Richelieu dans cette histoire n'a fait que rendre officiel, qu'institutionnaliser un cénacle qui en réalité existait depuis déjà bien longtemps. C'est Émile Henriot notamment qui a rétabli cette vérité au début du siècle passé. En vérité, dès le milieu du XVIe siècle, on voyait un certain nombre de beaux esprits se réunir, les réunions avaient lieu le dimanche, et se régaler de vers et de chants, nous dit-on. C'était une habitude qui venait d'Italie. Vous savez qu'on avait en Italie conservé ces mœurs antiques qui consistaient à ressusciter en quelque sorte le principe des académies. On se réunit, on lit des vers, on en parle, etc. Et à l'époque, il y avait un certain Baïf, il y avait Dora, Bello, le grand Jodel, Ronsard, évidemment, tous ces gens-là faisaient partie du petit club. Et le roi Charles IX décide très tôt d'en devenir le protecteur. Ça, c'est un premier pas vers une reconnaissance officielle. Seulement, le Parlement de Paris, à l'époque, se montre très réticent. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est en train de nous créer une sorte de seconde chambre de Parlement. Ça veut dire que le Parlement, à l'époque, n'est pas un Parlement politique au sens où nous le connaissons nous aujourd'hui. C'est plutôt un Parlement juridique et judiciaire. Mais il fait office de chambre de conseil. Et ça n'amuse jamais le Parlement de voir se constituer une assemblée, quelle qu'elle soit. Et surtout, une assemblée de beaux esprits. Ce qui fait que cette toute première académie ne survit pas à la mort de Charles IX en 1574. Mais tout de même, 18 mois, enfin presque 2 ans plus tard, en 1576, un dénommé Guy de Pibrac va la ressusciter, cette toute première académie. Alors Guy de Pibrac est originaire de Toulouse, c'est le chancelier de la reine Margot, quelqu'un qui a de grands loisirs, il faut le dire. Il est assez proche d'Henri III, évidemment, et il obtient d'Henri III la fondation de ce qu'on va appeler l'Académie du Palais. Pourquoi du Palais? Parce qu'elle se tient au Louvre, évidemment. Et on voit là se réunir alors vraiment des gens importants. Il y a Ronsard, encore une fois, d'Aubigny, mais aussi des gens comme Ambroise Paré, le grand chirurgien. On parlait, nous, de Vézal l'autre jour.
À Montpellier.
De tout, le duc d'Épernon, qui jouera un rôle si important pendant ce règne d'Henri III. Bref, on est là très près de ce que va devenir plus tard l'Académie française au sens propre. Pibrac meurt en 1584 et cette mort entraîne également celle de l'Académie pour un demi-siècle en fait. Il va falloir attendre 1629 pour qu'un groupe d'écrivains renoue avec ce double exemple des deux premières académies. C'est Chapelain, Godot, Gombeau qui vont se réunir chez Valentin Conrart. Valentin Conrart dont Boileau a vanté dans des vers célèbres le silence prudent. Tout ça effectivement reste très discret, pour ne pas dire secret. On est quasiment à l'époque encore dans le registre de l'Assemblée occulte.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Et sur Europe 1, nous sommes toujours au cœur de l'histoire de l'Académie française avec Franck Ferrand.
Et oui, pour l'instant, nous sommes au cœur des années 1630 et nous suivons l'évolution très discrète d'un petit cénacle qui se réunit pour le moment en catimini chez Valentin Conrart. De temps en temps, on donne des lectures, voyez, mais tout ça se fait, encore une fois, très discrètement. Et puis un jour, les académiciens, si je peux déjà les appeler ainsi, reçoivent un certain Faret, qui est l'auteur de L'Honnête Homme. Et ce Faret, c'est un bavard. Donc il trahit très vite le secret. Il parle de cette réunion, de sa lecture, du succès qu'il y a obtenu chez son ami Bois-Robert. Sauf que là, Boisrobert, c'est un des amis secrétaires du cardinal de Richelieu. Et le cardinal dresse l'oreille. Comment? Un complot? Il faut savoir que Richelieu adore la littérature, mais qu'il déteste évidemment toutes les réunions secrètes. Alors il a une réaction qui est très intelligente. Au lieu de supprimer, d'enquêter, de supprimer ce petit cénacle, il décide de s'en déclarer officiellement le protecteur. Alors vous pensez quelle tuile pour les écrivains qui se réunissaient jusqu'ici tranquillement. On va assister pendant presque un an à un jeu de cache-cache rocambolesque entre les services du cardinal de Richelieu qui veulent absolument officialiser l'académie et les autres qui se réunissent toujours en cachette. Et puis finalement, ils se rendent compte que le cardinal de Richelieu, c'est aussi des pensions, c'est aussi l'ouverture des grands théâtres. Vous savez qu'on est encore à l'époque du privilège royal, hein, donc on ne fait pas jouer n'importe quoi, et encore moins imprimer. Et donc, les académiciens, finalement, vont se laisser faire douce violence. En 1634, Richelieu rédige lui-même, c'est devenu son passe-temps, si vous voulez, il rédige lui-même les statuts d'une compagnie. Alors attention, ils étaient 12 au départ, lui, il en fait une compagnie de 40 membres, ce qui va permettre de faire entrer beaucoup de monde et de noyer les autres dans la masse. Des membres qui seront, et ça c'est le statut d'emblée, cooptés par les académiciens eux-mêmes, puis approuvés donc par le protecteur, en l'occurrence par Richelieu. Alors c'est le moment où arrivent Vaugelas, Gay de Balzac, Voiture, le divin Saint-Amand, mais aussi le chancelier Séguier ou des gens comme ça. L'académie à l'époque siège toujours chez Valentin Conrart, on est rue Saint-Martin. L'immeuble n'existe plus aujourd'hui. Alors, cette assemblée, cette académie, elle ressemble à ce qu'elle restera par la suite, hein, une sorte de cénacle d'esprits brillants réunis au service de la langue française, mais dont l'autorité et dont le prestige va en fait bien au-delà. Louis XIII lui donne ses lettres patentes, c'est-à-dire ses statuts officiels, si vous voulez, le 29 janvier 1635, ça c'est la date officielle de la naissance de l'Académie française. Mais attention, le Parlement, comme au siècle précédent, le Parlement fronce les sourcils. Il ne veut pas de cette espèce de chambre bis. Et le Parlement de Paris va mettre très longtemps, près de 2 ans, à enregistrer les fameuses lettres patentes de Louis XIII. Du reste, l'arrêt du Parlement précise, ça mérite d'être lu. L'Académie ne pourra connaître au sens vrai sens, si je puis dire, ne pourra connaître que de la langue française et des livres qu'on exposera à son jugement. C'est bien restrictif. Richelieu confie tout de suite la rédaction aux académiciens d'un dictionnaire qui devrait faire autorité. Nous verrons tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, ce qu'il faut penser des batailles de dictionnaires qui ont pu avoir lieu. Mais en tout cas, pas de politique à l'Académie. Ce qui n'empêche pas Richelieu, on ne va pas le changer évidemment, de demander quelques services aux académiciens. Et notamment dès la deuxième année de l'existence officielle, l'Académie va se trouver entraînée à son corps défendant dans une des plus terribles affaires de toute l'histoire de la littérature française, la célèbre querelle du Cid. Vous savez, Julia, qu'en 1636, nous l'avons dit à ce micro même il n'y a pas très longtemps, Corneille avait fait jouer par les comédiens du Marais cette pièce qui a été triomphe comme on n'en a pas connu d'autres dans toute l'histoire du théâtre français. Ça a été peut-être Cyrano de Bergerac, mais pas autant que le Cid. C'est une véritable révolution culturelle, si je puis dire. Et le succès foudroyant du Cid a fait, bien sûr, c'est toujours la même histoire, beaucoup de jaloux, dont Méret notamment, qui accuse aussitôt Corneille de plagiat. Il aurait tout été piqué chez Guillaume de Castro. Corneille, très sourcilleux là-dessus. À l'époque, il n'est pas encore membre de l'Académie, Corneille, il faut le préciser. Il n'a que 30 ans, après tout. Il se défend bec et ongles. Ses ennemis rédigent un véritable réquisitoire qui s'appelle « Les observations sur le Cid ». Corneille leur répond, c'est la lettre apologétique qui est envoyée au sieur de Scudéry. Richelieu, à ce moment-là, se dit qu'il pourrait peut-être faire d'une pierre deux coups, parce qu'il est assez agacé par Corneille. D'abord, Corneille a été un de ses employés, si l'on peut dire. Il faisait partie de l'équipe des rédacteurs qui développait des trames de pièces inventées par le cardinal. Mais surtout, Corneille, dans le Cid, a exalté les vertus du héros espagnol. Or, on est en pleine guerre contre l'Espagne, même si la reine Anne d'Autriche est espagnole. Mais vous savez, les relations tendues entre cette reine espagnole et le cardinal. Donc, Richelieu va suggérer à l'Académie d'arbitrer la querelle du Cid, mais de se transformer en tribunal des lettres, plutôt à charge contre Corneille. Trois des membres de l'Académie sont délégués en commission. Ils vont rédiger les fameuses observations de l'Académie sur le Cid. Alors, il y a quelques critiques, évidemment, on ne peut pas trop déplaire au cardinal, mais les observations de l'Académie se concluent par un vibrant hommage au génie de l'auteur. D'ailleurs, il y a cette fameuse expression magnifique, l'agrément inexplicable de cette pièce, disent les académiciens. Cet agrément inexplicable, c'est le génie, tout simplement. Et du coup, Richelieu en est pour ses frais. Il se croit même obligé de faire jouer le Cid à la cour. Et Louis XIII ira plus loin en anoblissant le père de Corneille, afin que Corneille ne soit pas anobli, mais noble. Ce dernier devra attendre la mort de Richelieu néanmoins pour entrer lui-même à son tour à l'Académie française. Or, quand Richelieu vient de mourir, l'Académie est en grand danger. En effet, Richelieu tenait littéralement ce cénacle à bout de bras. À partir du moment où il n'est plus là, où le protecteur disparaît, eh bien, on ne sait pas ce que va devenir l'Académie. Celui qui devait la sauver, c'est un certain Vincent Voiture. Vous savez, le Voiture de l'hôtel de Rambouillet, dont se moquera plus tard une pièce de Molière. Voiture est très en cours auprès de la régente Anne d'Autriche et d'ailleurs, non seulement la régente va soutenir l'Académie, mais elle va lui offrir des locaux, puisqu'on installe les académiciens au Louvre, au rez-de-chaussée sud-ouest de la Cour Carrée, dans deux salles qui existent encore aujourd'hui au musée du Louvre. Deux salles, alors une petite pour les réunions ordinaires de l'Académie, et puis une grande salle d'honneur où se tiennent les séances publiques de réception notamment. Et puis bientôt, il y aura un nouveau protecteur qui sera Colbert. On ne peut pas dire que ce soit vraiment Colbert qui, par ailleurs créateur de bien des académies, va asseoir l'autorité de l'Académie française. Ce qui assoit l'autorité des académiciens, c'est tout simplement l'incroyable prestige des membres de l'époque. Vous imaginez que siègent côte à côte Corneille, Racine, La Fontaine, Boileau, La Bruyère, Bossuet, Perrault, Fénelon, tous ces gens-là sont dans la même salle. N'en jetez plus, on a envie de dire. D'ailleurs, j'ai cité La Fontaine. En 1683, son élection a eu lieu contre l'avis de Louis XIV, protecteur de l'Académie. L'Académie s'en tirera en faisant bien vite entrer Boileau dans l'Académie. En fait, on peut dire qu'à partir de la fin du règne de Louis XIV, l'Académie française vit à peu près tranquillement et sans grosse tempête jusqu'à la Révolution française. Et alors là, à la Révolution française, c'est plus radical puisque purement et simplement, on la supprime.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Aujourd'hui sur Europe 1, le récit d'Au cœur de l'histoire retrace la saga de l'Académie française, Franck.
Une Académie française carrément supprimée en 1793, au moment dur de la Révolution. Bon, on rétablit un Institut national de France 2 ans plus tard sous le Directoire, mais à ce moment-là, l'Académie française n'est plus qu'une des 3 classes de cet institut. Ça s'appelle la classe de littérature et beaux-arts, vous avouerez que ça fait moins rêver forcément. Les académiciens n'en existent pas moins toujours, mais ils n'ont plus ce nom. On ne les distingue d'ailleurs plus vraiment des autres citoyens. Et du reste, il y a la fameuse anecdote de 1800, vous savez, après Marengo, lorsque Bonaparte rentre à Paris, il y a une espèce de grande bousculade au moment du triomphe de Bonaparte, et l'on bouscule les académiciens, on les renverse, on les piétine, enfin, etc. Et ça va leur servir d'excuse pour demander un vrai uniforme. C'est l'origine du fameux habit vert, tellement vert à l'époque que Talleyrand les appelait du reste les perroquets. Comme toujours, c'est Bonaparte en 1803 qui recrée une section littérature de 40 membres. On est très près de l'Académie française qui est restaurée exactement dans ses vieux statuts avec le retour des Bourbons. Elle est restaurée exactement en 1816 et là on peut dire que depuis 2 siècles elle n'a plus tellement évolué. La seule vraie grande évolution de l'Académie depuis 2 siècles finalement, c'est d'avoir admis, mais ça n'était pas mince, en 1980 une femme parmi ses membres, et voilà, la femme en question c'était Marguerite Yourcenar. Elle s'exprimait au moment de son élection sur Europe 1 au micro de Christine Ockrent.
Si l'on pense à toutes les femmes qui, avant vous, ont voulu entrer à l'Académie et ne l'ont pas pu, est-ce que vous sentez avec ces femmes-là une filiation ?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que je me sente particulièrement une filiation envers les femmes que je vais avoir à nommer dans mon discours. Peut-être un peu Madame de Staël, qui a eu du courage, qui a fait de l'opposition à l'époque de Napoléon, qui a certainement été une des femmes qui pensait le plus sérieusement de son époque, celle qui a essayé de présenter l'Allemagne de ce temps-là. La France.
Est-ce qu'il y a quelque chose de très français, selon vous, dans ce concert de louanges qui vous entoure ?
Le concert de louanges, je n'en sais rien, mais la passion envers l'institution même de l'Académie, envers une certaine hiérarchie du talent et du succès, ça, oui, ça me paraît très français.
Ça me paraît très français, on ne saurait mieux dire. Merveilleuse Marguerite Yourcenar. S'il y a de jeunes auditeurs, je leur conseille notamment, évidemment, d'aller se plonger dans Marguerite Yourcenar et dans les mémoires d'Adrien, qui sont sans doute un des plus beaux livres français, en français, du XXe siècle. Alors, d'autres petites modifications seront introduites par la coutume. L'âge requis, notamment, vous savez que sous l'Ancien Régime, on pouvait entrer à l'Académie à 15 ans, à 16 ans. Évidemment, maintenant, c'est plutôt une assemblée de personnes plus mûres, nous allons dire. Vous connaissez la définition de Carlo Rim, hein, le dessinateur, qui jouait sur le double sens du mot académie. Vous savez qu'une académie, c'est aussi le terme qu'on emploie pour désigner un portrait de nu, simplement. Et elle disait « Académie, définition, corps de femme au sein duquel on est admis et qu'à la condition d'être assez jeune, ou bien corps d'écrivain au sein duquel on est admis qu'à la condition d'être assez vieux », disait-il. Les discours de réception sont devenus avec le temps des moments attendus de la vie culturelle. Ça aussi, ça s'est installé avec la coutume, forcément. Je vous parlais de Piron tout à l'heure. Piron, on les trouvait beaucoup trop longs, ces discours. Il disait « on devrait se contenter de cette formule. Le récipiendaire dirait « merci beaucoup » et celui qui l'accueille répondrait « il n'y a pas de quoi ». Ce serait plus simple.
C'est bref, hein.
Du reste, ça s'est produit plus ou moins, puisque quand le poète tragique Charles Briffaut devait prononcer l'éloge du chancelier d'Aguesso, eh bien, il s'en est tiré par quelques mots. Il a simplement dit « messieurs, il est des noms qui disent tout. Dès qu'on les a prononcés, l'éloge est fait. Mon prédécesseur a eu le bonheur de porter un de ces noms. Il s'appelait d'Aguesso et il s'est rassis ». Alors ces discours évidemment sont célèbres, je résiste pas au plaisir de vous citer celui de Marcel Pagnol recevant Marcel Achard qui lui disait « Ah, je vous ai vu la face enfarinée, le manteau pointé, les pieds en dedans ». Il parlait de l'époque où Marcel Achard jouait le rôle d'un clown, etc., ce qui est un peu inattendu à l'Académie. Il disait « Je vous ai vu, monsieur, recevant de grands coups de pied et des coups de pied où ?» Et là il laisse un moment et il précise « au théâtre de l'atelier, devant une foule sans cesse renouvelée ». Il y aurait énormément d'anecdotes à vous raconter sur cette académie. Il faudra faire une autre émission si l'on veut. Je voudrais qu'on en vienne plus précisément, nous, à l'histoire de la langue française qui va nous intéresser maintenant. Cette académie, donc, occupe un des chapitres de l'excellent ouvrage des journalistes canadiens Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlot. Et bien, juste après le flash de 14h, c'est avec Jean-Benoît Nadeau, que nous reviendrons sur cette langue française, encore parlée aujourd'hui par quelque 220 millions de personnes à travers le monde.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1,
plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
On s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 à l'histoire de la langue française. Et pour en parler, Franck, vous recevez Jean-Benoît Nadeau, qui est auteur du livre, entre autres, Le français, quelle histoire, aux éditions Télémaque.
Le français, quelle histoire, avec Julie Barlot. C'est toujours très intéressant d'avoir le point de vue d'un francophone non français sur cette langue, sur son histoire, sur cette culture, parce que les deux sont évidemment tout à fait indissociables. Alors, j'ai fait tout à l'heure rapidement une allusion au dictionnaire de l'Académie française, mais c'était une allusion qui ressemblait plutôt à une impasse, car je ne voulais pas déflorer trop tôt le sujet. Il faut savoir que le tout premier à s'être chargé du dictionnaire de l'Académie, c'était Vaugelas. Il commence tout de suite, hein, il commence en 1634. D'ailleurs, le cardinal lui donne une pension pour ça, une pension de 2000 livres, et il lui dit « Il est un mot, monsieur Vaugelas, que je l'espère vous n'oublierez pas dans votre dictionnaire. » « Et lequel, monseigneur ?» demande Vaugelas. « Pension. » À quoi le poète répond « Je n'oublierai pas non plus celui reconnaissance. » on peut dire que ce dictionnaire de l'Académie française aura été assez laborieux puisque la première édition sort le 24 août 1694. Il aura fallu du temps aux académiciens. Et puis arrive... Alors d'ailleurs, à l'époque, l'édition n'est pas alphabétique, hein, puisqu'on a les mots sont classés par racines de mots, ce qui est extrêmement compliqué pour s'y repérer. La deuxième édition paraît en 1718. Celle-ci est dans l'ordre alphabétique. Puis allons-y, 1740, 1762. Ça, c'est très important. C'est le fameux dictionnaire de la réforme de l'usage, c'est-à-dire que c'est la première fois que les académiciens s'intéressent de très près à une simplification, certes très relative, de la langue. Et puis 1798, 1835, 1878, 1935 et puis c'est tout, puisque nous sommes toujours pour l'instant à l'édition de 1935 du dictionnaire de l'Académie. Alors, les académiciens se réunissent le jeudi à 15h30, ça c'est la tradition, hein, pour travailler. On a énormément d'anecdotes sur ces séances du dictionnaire, mais on rappelle notamment la fois où c'est encore Marcel Pagnol qui raconte ça, un jour où le maréchal Foch, je ne sais plus si c'est Foch ou Joffre d'ailleurs, s'est endormi pendant la séance, et on lui dit « Mitraillette, mon général, mitraillette !» Alors il se réveille et dit « Pardon, oh oui, mitraillette, c'est ce fusil qui fait ta-ta-ta-ta-ta » Bon. Mais en attendant, depuis 1935, le dictionnaire n'est pas sorti. Ce qui est certain, c'est que ce dictionnaire est entré tôt en conflit avec beaucoup d'autres dictionnaires, oui, privés, si je puis dire, Jean-Benoît Nadeau.
Oui, tout à fait. Et ce qui est remarquable, une des grandes constantes de l'histoire de la langue, c'est qu'en fait, de facto, elle s'est définie en dehors des institutions. Et donc, par exemple, 1680, M. Richelet arrive avec son dictionnaire qui concurrence directement celui de l'Académie en préparation et qui va contre le monopole accordé par le roi. Mais M. Richelet a eu l'intelligence de se faire publier en Suisse, à Genève.
Et voilà, ce Richelet a été obligé d'aller se faire publier ailleurs. C'est quand même énorme, ça.
Mais un académicien parmi le groupe, Furtière.
Tous les étudiants 17e-istes ou 18e-istes, évidemment, connaissent ce nom par cœur. C'est même un peu une plaie, il faut dire, des études de cette époque. Puisque quand vous avez besoin de savoir la signification profonde d'un mot de cette époque, vous allez dans le Furtière, qui est considéré comme le grand dictionnaire. C'est l'équivalent du Larousse plus tard, en fait.
Furtière était en fait en faux contre ses collègues parce qu'il était lui-même académicien et s'insurgeait qu'on veuille faire une langue de cour. Parce que lui disait le vocabulaire d'un architecte est aussi valable en français que le vocabulaire d'un courtisan. Et son point de vue n'a pas prévalu. Et il a continué de travailler dans l'ombre à son propre dictionnaire qui était il a finalement demandé. L'Académie était inquiète. Elle a demandé un monopole. Et là, lui a obtenu une licence pour faire un dictionnaire qui n'était pas celui de l'Académie, qui comprenait tout le vocabulaire qui n'était pas celui de la cour. Et quand il a publié les premières planches de son dictionnaire, on s'est aperçu qu'au contraire, il y avait des mots comme « feu » ou « mer ». Et là, la querelle a pris. Et ça s'est terminé très mal. Furtière est mort. Ça s'est terminé par une série d'insultes. Ça se tirait, on se lançait des dictionnaires.
On peut dire que les débats n'avaient pas tout à fait la sérénité requise.
Non. Et Furtière s'est lui-même fait publier en Hollande en 1690, 3 ans avant l'Académie.
Ah oui, il les a battus sur le poteau. Alors, cette querelle des dictionnaires, il y en aura une plus tard, que vous racontez et qui est passionnante. C'est la querelle entre les grandes maisons d'édition de dictionnaires. Alors là, cette fois, on est deux siècles plus tard, en fait. Hein.
Oui.
C'est la querelle entre Larousse, Robert, etc.
En fait, qui a commencé même un peu plus tôt, puisque au moment où Guizot crée l'instruction publique en France, au moment où le gouvernement établit l'examen obligatoire pour la fonction publique, pour devenir fonctionnaire.
On est donc là sous la monarchie de Juillet, dans les années 1830-1835.
Le gouvernement décide, pour la première fois, d'adopter le dictionnaire, la 6e édition du dictionnaire de l'Académie, comme orthographe officielle de référence pour des examens. Au moment où se crée l'instruction publique. Et dans les 10 années qui ont suivi, les éditeurs français ont sorti plus de 1000 grammaires, on utilise le terme grammaire un peu indifféremment pour dictionnaire et grammaire tel qu'on l'entend maintenant.
Et ouvrage de syntaxe, même, oui.
Oui. Et en même temps, ils ont réédité tous les classiques de la littérature française, Molière, Corneille, Racine, etc., selon la nouvelle orthographe de 1835, ce qui nous donne l'impression maintenant que Molière, Corneille, Racine écrivaient en français bourgeois du 19e siècle.
C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est qu'on a réécrit les textes anciens dans la nouvelle graphie, dans la nouvelle langue, en quelque sorte.
Et quand on lit aujourd'hui, ce que l'on a enseigné par la suite.
Quand on lit aujourd'hui du Molière ou du Racine, en fait, c'est le Molière et le Racine réécrits dans les années 1840.
Exactement. Et c'est un cas phénoménal de révisionnisme linguistique, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce qui fait que cette impression-là du français immuable, ça en est retrouvé et renforcé.
Mais c'est fondamental, ça. C'est la notion centrale. Je voulais y venir plus tard, mais je crois qu'il faut quand même le dire d'emblée. C'est essentiel. C'est que toute cette langue française, que nous révérons tous à des degrés divers, et que révèrent nos auditeurs, si j'en crois les questions qui arrivent, et qui sont toutes des questions de purisme, précisément. Toute cette culture de la langue française s'est établie autour d'une notion qui aurait pu passer quasiment au second ou troisième plan, la notion de purisme. Oui. Et ça se passe au tournant du XVIIe siècle, à la fin du XVIe, on va dire.
L'esprit d'un seul homme qui s'est calqué sur l'ensemble de la langue, et c'est Malherbe. Avant Malherbe, Malherbe à qui on doit l'Alexandrin,
grand Malherbe, oui.
Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, elle se passe d'un matin, si j'ai bonne mémoire. Et avant lui, les grands auteurs écrivaient avec une certaine désinvolture. Hein. Montaigne avait 4 orthographes pour Astor.
Astor, qui était l'expression préférée de Louis XIV, qu'il a collé à la fin de chaque phrase.
Ah, bravo. Oui. Et Montaigne avait 6 orthographes pour le verbe connaître.
Alors, oui, voilà.
Il ne coignoissait pas le dictionnaire, c'était très approximatif. Arrive Malherbe qui veut moderniser la langue, qui veut éliminer les néologismes, les archaïsmes, les régionalismes, les synonymes. Pour créer une langue, ça n'était pas un projet conservateur, c'était un projet moderniste. Pour créer une langue que tout le monde pouvait pratiquer, quel que soit son bagage, poète ou général, dans les salons, dans les cours, et qui serait éventuellement une langue qu'on pourrait enseigner. Ce qui n'était pas le cas du tout à l'époque. Il n'y avait que 4 langues qui étaient fixés en Europe. C'était l'arabe, c'était l'hébreu, le latin classique et le grec ancien. Et donc,
les autres étaient considérés comme des langues vulgaires.
Exactement.
Et d'un seul coup, le grand projet, l'ambition de Malherbe, c'est de faire de cette langue vulgaire une langue de référence, mais ce qui suppose une purification considérable de la fameuse langue. Alors moi qui passe mon temps à dire toujours qu'il faudrait que la langue de Molière soit rebaptisée langue de Corneille, vous nous dites, vous, et vous l'écrivez qui plus est, qu'il faudrait plutôt parler de langue de Malherbe.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays. On dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux.
La langue de chez nous, paroles et musique sont signées Yves Dutheil et Franck.
Un chef-d'œuvre absolu, ça nous colle des frissons, cette
c'est vrai.
Très belle chanson sur une très belle langue, dont Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlot nous apprennent qu'elle n'est peut-être pas tout à fait ce que nous pensions, ou qu'en tout cas, elle ne vient pas forcément de là où l'on croit, et qu'elle ne va sûrement pas là où on imagine qu'elle est partie. Est-ce qu'on peut dire ça?
Exactement.
Ça s'appelle oui. Le français, quelle histoire, c'est édité chez Télémaque. Ça a l'air d'un pavé, comme ça, on se dit, oh là là, mais en fait, ça se lit alors vraiment comme une sorte de saga, de roman d'aventure, c'est bourré de rebondissements, c'est assez extraordinaire comme aventure, cette histoire du français. Et ça commence, puisque nous parlions de Malherbe, Malherbe et des Normands. Il faut quand même que je rende hommage à ma province et d'origine et d'élection.
Et la mienne également.
Et la vôtre aussi. Cette province de Normandie, c'est un peu le premier pèlerinage que vous avez fait dans cette enquête. Finalement, vous êtes allé aux sources dans l'île de Jersey.
Oui, en fait, c'était une expérience linguistique.
Vous avez fait un beau voyage, comme disait l'autre.
Un très beau voyage. Et j'étais une expérience. Je voulais expérimenter ce que c'était qu'une koiné. C'est-à-dire que la façon dont la langue française s'est faite autour de l'île de France, c'était que essentiellement il n'y avait pas de francien. Il y avait des dialectes, picard, champenois,
énormément de dialectes, bien sûr.
Orléanais, etc.
Jusque énormément. Tard, hein, jusqu'au 11e siècle.
Oui, et plus tard même, puisque certains ont survécu. Mais alors les gens se parlaient des dialectes apparentés, mais parfois inintelligibles, et trouver un terrain d'entente. Alors, je suis allé à Jersey dans le but de me frotter à des Jerryais, à des gens de l'île de Jersey qui parlent encore cette langue normande dans sa version jerryaise.
Qui n'ont pas été trop marqués par le passage de Victor Hugo, ce qui fait qu'ils parlent encore leur langue d'origine.
Exactement. Et ils sont environ quelques centaines, sans plus. Et j'ai donc passé 3 jours avec eux. Et ça a été une rencontre très intéressante, puisque moi, je leur parlais dans mon français dialectal, sans faire trop d'efforts, comme j'en fais maintenant pour nettoyer.
Nous vous en sommes reconnaissants.
Je vous en prie. Et tout en... mon accent est bien sûr reconnaissable, mais j'accélérais mon débit, etc. Eux, bien évidemment, me parlaient dans leur normand dialectal. Et bien sûr, nous avions des tchèchtions, pour éviter les méprinces, mais les questions pour éviter les erreurs.
Oui, certes.
Et au bout d'une journée ou deux, on se comprenait. L'accent était bien sûr un peu différent, mais on évitait spontanément, les choses, les éléments de la grammaire ou du vocabulaire.
Trop exogène, en fait.
Trop exogène. Par exemple, littérature. En normand, se dit littératus, c'est-à-dire que les R se font en TH, un peu à l'anglaise. Un père, c'est un pèse, une mère, c'est une messe, un frère, c'est un fraisse. Bien diphtongué, là, il faut fraisse, messe, pèse. Et quand on se fait l'oreille, quand on n'est pas trop puriste, quand on n'est pas trop...
Formaté
par un certain niveau de langage, on réussit à bien le faire. Et c'est ainsi que la langue s'est faite autour de l'île de France. Et c'est ainsi que on la faisait de façon orale, mais aussi à l'écrit. Et ce qui donnait une scripta commune que Gaston Paris, bien des siècles plus tard, a pris pour le francien. Ouais,
okay. Alors attention, n'induisons pas nos auditeurs en erreur. Vous n'êtes pas en train pour autant de remettre en cause les origines gréco-latines de la langue, et notamment de ce bas latin, de ce gallo-romain. Au contraire, vous expliquez pendant des chapitres passionnants que c'est bien de là que la langue s'est créée. Les Absolument. Langues, devrait-on dire, parce qu'il y a vraiment une sorte de double branche, oui. Entre langue d'Oïl et langue d'Oc, évidemment. Mais c'est bien de ce latin que tout vient. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, cette langue était suffisamment flottante et suffisamment mobile, modulable, en quelque sorte, d'une province à l'autre, pour arriver à constituer un fond qui était commun sans être pur, sans être défini une
Exactement.
Fois pour toutes.
Hein.
C'est,
assez,
c'est finalement une notion très vivante, très, très évolutive que vous présentez là.
Tout à fait. Et mon exemple favori, c'est le verbe « aller ». Le verbe « aller » dans le bas latin, on disait « ire, vadere » ou « ambulare » selon le sens. Mais les locuteurs du bas latin, du sermo vulgari, disaient plutôt... fusionnait les verbes. Ce qui fait que les verbes irréguliers de la langue française sont en fait des résultats de fusion de verbes latins dans lesquels on a compromis certaines conjugaisons. Ce qui fait qu'on dit « j'irai » au futur de « irai » en latin, mais on va dire « je vais » de « vadere » et « nous allons » de « ambulare ». C'est le résultat de ce gigantesque compromis de cette soupe linguistique du bas latin.
Une soupe linguistique qui est un véritable bouillon de culture.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Il y en a des choses qui n'ont pas de sens. Un chapeau, ça n'a pas de sens. Moi, quand je mets le mien, il y en a qui me disent « Pour porter un pareil chapeau, faut être malade !» Et puis d'autres qui me disent « Avec ce chapeau, t'as bonne mine !» Les avis sont partagés, quoi. Je mettrais bien un béret, mais un béret, ça n'a pas de sens non plus. Vous pouvez le tourner de tous les côtés, il est toujours de face. Ou alors, faut le mettre sur l'oreille à cause du soleil. Mais le soleil, ça n'a pas de sens, ça tombe, ça. Alors quand le soleil est là, béret, faut le changer d'oreille. Et quand le soleil se couche, le béret, faut le mettre dans sa poche. Et là aussi, les avis sont partagés. Il y en a qui le mettent dans la poche droite, d'autres dans la poche gauche. Puis il y en a qui le mettent dans la poche revolver, mais ça n'a pas de sens. On met jamais un revolver dans cette poche-là. On met dans un tiroir. Alors que ça n'a pas de sens non plus. Parce que si vous mettez votre revolver dans un tiroir et que vous êtes attaqué dans la rue, n'allez pas sortir votre béret.
Ça n'a pas de sens. Raymond DeVos, les jeux avec la langue. C'est assez intéressant aussi de distordre parfois un peu la langue, de la maltraiter, ce que vous montrez remarquablement dans votre ouvrage. Alors, j'aurais aimé qu'on parle évidemment des Normands, de la conquête par Guillaume le Conquérant de l'Angleterre, qui est la première expansion culturelle du français. Bon, tout ça, je renvoie les auditeurs à votre livre, hein, Le français, quelle histoire chez Télémaque. Et vous-même, Jean-Benoît Nadeau, ce soir, vous serez à l'Alliance française à 19h. Alors, oui. Profitons-en, disons-le. L'Alliance française, c'est 101 boulevard Raspail. Je connais bien, moi, j'y ai étudié pendant longtemps. Okay. Mais oui, et à 19h, donc, vous nous parlerez de cette aventure du français. Vous direz tout ce que vous n'avez pas eu le temps de dire là aujourd'hui. Mais enfin, on a, je pense, quand même ouvert un peu les choses. Ce sur quoi j'aimerais qu'on revienne, c'est sur les rebelles de la langue, comme vous dites, et notamment cette époque romantique où l'on commence quand même à refaire bouger les choses. Oui. Un peu moins de purisme, un peu plus de créativité, en quelque sorte.
On se met à être mal à l'aise dans le corset. Et arrivent les romantiques qui décident qu'un bandit ou qu'un bagnard ne peut pas parler comme Madame la Marquise.
Mais évidemment, et un peu de réalisme scandale. Dans tout ça. Quand même.
Ça fait scandale. Et arrive aussi en même temps, parce qu'on scolarise les Français, le nombre de personnes qui parlent le français se multiplie, se décuple. On ne peut plus retenir tous ces locuteurs dans un cadre strictement puriste. On se met à créer, on emprunte dans les régions. On emprunte un vocabulaire, alors que les langues régionales sont toujours vivaces, on emprunte un vocabulaire extrêmement varié.
Vous êtes assez optimiste, vous, sur l'avenir du français. Vous dites qu'en fait, cette langue n'a jamais été autant parlée qu'aujourd'hui, tout simplement.
Oui, à 225 millions, ça va plutôt bien.
Et ça ne fera que croître et embellir, dites-vous, à condition qu'on accepte que le français dont il est question soit un peu moins pur qu'un français académique.
Je dirais désinvolte.
Un peu moins désinvolte. Merci infiniment de nous avoir éclairé, Jean-Benoît Nadeau. Le français, quelle histoire, s'est édité chez Télémaque. Bonjour, chère Faustine.
Bonjour, Franck, et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui se découvrent homosexuels sur le tard. Ils ont construit une vie de couple, que ça soit avec un homme, que ça soit avec une femme, et ils sont tombés amoureux d'une personne d'une même sexe, d'un même sexe qu'eux. Comment gérer ça, justement, cette découverte tardive? Comment gérer ça avec les enfants, évidemment? Comment gérer l'annonce, l'après, la famille, le poids de la société? Comment s'épanouir avec ce nouveau conjoint dans cette famille recomposée d'un nouveau genre? On va en parler avec vous tous ensemble, avec toutes vos questions, peut-être vos interrogations également. 3921 pour nous joindre en direct aujourd'hui, Franck.
Vaste programme. Merci beaucoup, Faustine. Et à demain, Julia.
À demain,
nous parlerons de résistance et de grands résistants.
Ah, rendez-vous demain sur Europe 1.